Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je crois qu'on se connaît tous. Est-ce que vous souhaitez que je redonne le charisme de la garde d'honneur, monsieur? Non, ça va? Oui, vous voulez bien. Alors, ben moi, je le veux bien aussi avec vous. Donc, du coup, alors, le charisme, très simple, et c'est juste en ça que j'insiste sur le fait que ce soit simple, et nous qui avons un cœur compliqué et malade, nous avons tendance à le compliquer, ce charisme. Donc, il s'agit de choisir une heure, tous les jours, la même heure. Quand j'oublie, je supplée au moment où j'y pense, et ce n'est pas un péché d'oublier. Et la démarche de cette heure, on va la vivre en communion le plus qu'on peut avec Jésus présent au tabernacle. On la débute ou on la démarre par une prière d'offrande, qui est celle de l'offrande à l'heure de présence, pendant laquelle, pendant cette heure, on va tout offrir au cœur de Jésus. Donc joie, peine, tout notre travail. Et c'est ce qui réjouit le cœur de Jésus, c'est cette présence dans notre quotidien, dans ce qu'on fait. C'est pas une heure de prière, ça ne remplacera jamais la prière, ça c'est sûr, mais par contre ça lui vaut en tout cas les mérites de le consoler, parce que c'est l'amour avec lequel on fait les choses qui sanctifie notre vie et ce qu'on fait, et c'est ça qui l'attend. Alors en consolant le cœur de Jésus, les vraies personnes qui seront consolées, c'est nous, parce que le fait de consoler, il nous console, et par expérience, et tout le monde pourrait le dire à ma place, que moi, année après année, on se rend compte que cette heure de fidélité, de présence à sa présence, nous sanctifie. C'est le fait de faire les choses en union avec lui, vous le rendez présent. Et par exemple faire la vaisselle, parce que ça correspond à l'heure que vous avez choisi, faire la vaisselle pour le consoler, pour lui dire que vous l'aimez, eh bien s'il arrive quelque chose pendant cette heure, vous aurez la mémoire que votre heure elle est offerte, et du coup faut espérer que ça change la façon d'accueillir par exemple la personne qui peut être acariate ou qui vous insupporte, parce que vous savez que c'est votre heure de présence. C'est un art de vivre, la garde d'honneur, hein. Moi j'appelle ça une sanctification, un moyen de sanctification indolore. En somme, c'est comme on l'offre et on en prend conscience, que normalement toute notre journée est offerte. Nous, on en a tous plus ou moins le souci, mais malheureusement, on est pris par le cours des choses. On ne peut pas, à moins d'une grâce particulière, être présente à sa présence de façon permanente. Hein. On fait des petites œillades tout le long de la journée, et c'est ça qui nous ramène à sa présence, en prenant conscience, bah non, je ne peux pas agir de cette manière, ou il me faut être plus douce avec telle personne, ou là, je suis en train de murmurer contre mon mari ou ma voisine. Tandis que pendant cette heure, on sait que c'est une heure de vigilance, quoi, où on mène le combat, celui de l'amour. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va commencer par la prière. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour vous? Ouais, c'est bien. Ouais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et toutes nos choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même esprit et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Jésus, doux et humble de cœur, faites nos cœurs semblables aux vôtres. Ô Marie, conçue sans péché. Voilà, alors normalement, le programme faisait que je devais vous parler de l'abîme de l'humilité. Alors, je pense que je vais le faire. Moi, je vais commencer. Mais dans ma prière et la providence conduisant les événements, permet que le Saint-Sacrement soit exposé à la chapelle. Et parce que nous, on vit avec vous et vous, vous vivez avec nous. Et cette semaine qu'on appelle, nous, la visitation eucharistique, donc le Saint-Sacrement est exposé tout le long de la semaine. Et donc hier, nous fêtions le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, en fait, le cœur douloureux immaculé de Marie. Alors, pour un garde d'honneur, c'est quand même de fête, déjà le Sacré-Cœur, c'est la fête patronale, hein, de la garde d'honneur. Et il m'a semblé bon, alors pas avoir, comment dirais-je, je cherche pas en tout cas à vous apprendre quelque chose de nouveau sur le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ma démarche, elle est tout autre. C'est plutôt une démarche de renouvellement intérieur. Je l'ai répété plus d'une fois, mon objectif en faisant ces petites formations, c'est vous donner de la manne pour avancer sur le chemin de la sainteté et pour nourrir votre vie spirituelle. Je n'ai pas la prétention, tant mieux si ça arrive, mais de vous apprendre quelque chose de nouveau. Hein, c'est vraiment c'est vraiment une nourriture. Parce qu'on est, en tout cas j'espère, affamé et on ne trouve pas malheureusement, enfin c'est vos témoignages qui nous le confirment, qu'on ne trouve pas toujours moyen, la matière pour savoir si on doit aller tout droit ou si on doit tourner à gauche. Et donc voilà ma démarche. Et donc aujourd'hui, dans ma prière, je me disais que c'est une bonne occasion, en somme, de revisiter nos démarches. Notre démarche vis-à-vis de nos consécrations, la consécration au cœur de Jésus et au cœur de Marie. Alors pour commencer, alors moi je ne suis pas de celles qui séparent le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Hein. Pour moi, quand je dis quand j'ai fêté le Sacré-Cœur, j'ai aussi fêté le cœur de Marie hier, et en fêtant le cœur de Marie aujourd'hui, je fête aussi le cœur de Jésus. Alors c'est vrai aussi que l'Église donne deux jours, et c'est vrai que c'est deux personnes distinctes. Mais pour vous dire ça, je m'appuie sur un texte de notre saint fondateur, qui est donc, c'est un sermon pour la fête de l'Ascension, le 15 août 1602. Donc notre saint fondateur parle de la mort de la Sainte Vierge. Assurez donc qu'elle est morte, mais dit-on, je vous supplie, de quelle sorte de mort elle mourut. Quelle mort fut tant hardie que d'oser attaquer la mère de la vie et celle de laquelle le Fils avait vaincu et la mort et sa force qui est le péché. Soyez attentifs, mes très chers auditeurs, car ce point est digne de considération. J'aurai bientôt répondu à la demande, mais il ne me sera pas si aisé de la bien prouver et d'éclairer. Ma réponse est en un mot que Notre-Dame, Mère de Dieu, est morte de la mort de son Fils. La raison fondamentale est parce que Notre-Dame n'avait qu'une même vie avec son Fils. Elle ne pouvait donc avoir qu'une même mort. Elle ne vivait que de la vie de son Fils. Comme pouvait-elle mourir d'autres morts que de la sienne? C'était, à la vérité, deux personnes, notre Seigneur et Notre-Dame, mais en un cœur, en une âme, en un esprit, en une vie. Car si le lien de charité liait et unissait tellement les chrétiens de la primitive Église que saint Luc assure qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, combien avons-nous plus de raisons de dire et croire que le Fils et la Mère, notre Seigneur et notre Dame, n'étaient qu'une âme et qu'une vie. Oyez le grand apôtre saint Paul, il sentait telle union et liaison de charité entre son maître et lui, qu'il fait profession de n'avoir point d'autre vie que celle du Sauveur. Ainsi Jésus-Christ vit en moi. Ô peuple, cette union, ce mélange et liaison de cœur était grande, qui faisait dire telle parole à saint Paul, mais non pas comparable avec celle qui était avec le cœur du Fils Jésus et celui de la Mère Marie. Car l'amour que Notre-Dame portait à son Fils surpassait celui que saint Paul portait à son maître, d'autant que les noms de mère et de fils sont plus excellents en matière d'affection que les noms de maître et de serviteur. C'est pourquoi, si saint Paul ne vivait que de la vie de notre Seigneur, Notre-Dame aussi ne vivait que de la même vie, mais plus parfaitement, mais plus excellemment, mais plus entièrement. Voilà, alors je ne vais pas vous lire tout le sermon parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pages. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, à une époque, on enseignait, on avait un souci hein, de nourrir les âmes. On était pénétrés par la sanctification des âmes. Et du coup, voilà sur quoi je m'appuie pour vous parler sur la consécration de la Vierge Marie et du cœur de Jésus. Hein, Salut Marie Montfort consacre par les mains de Marie au cœur de Jésus. Alors, donc tout ce que je vais dire maintenant sur la consécration, toujours dans cette démarche de se renouveler, parce qu'il y a toujours un piège quand on a cette habitude de dire sa prière de consécration tous les matins, de se limiter justement à une prière. J'ai fait ma prière de consécration. Et alors, on va voir que ça va bien, et vous le savez, mais c'est bien, je vous dis, c'est bien de s'en ressouvenir. C'est quand l'épreuve arrive, ou quand on a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qui nous percute dans notre vie spirituelle, eh bien, en tout cas, souvent, peut-être qu'il y a des exceptions, et merci Seigneur s'il y a des exceptions, mais on n'a pas toujours le réflexe, en tout cas pas le premier, de se dire, c'est une réponse à ma consécration, ça fait partie. Hein, on va dire, de ce en quoi je me suis engagée en me consacrant à Jésus. Donc, consacrer, pour une par exemple, parce qu'on peut penser que la consécration au cœur de Jésus et au cœur de Marie, ce soit uniquement réservé justement à ceux qui se consacrent, comme moi par exemple, dans la vie religieuse. Le mot consacré, comme le pain et le vin au cours de la messe, hein, ça va vous aider à comprendre dans votre quotidien pourquoi il ne faut pas reprendre ces billes, si je puis m'exprimer ainsi. C'est consécration, c'est sortie du profane. Hein. Donc, quand on dit à Jésus, dispose de moi comme tu l'entends, hein, bien matériel, bien spirituel, et bien, et quand il arrive quelque chose, ben, je suis sortie du profane, je t'appartiens, je suis à toi. Donc, j'ai plus le droit de dire quoi que ce soit. Alors, c'est un joug d'amour. Attention, c'est une servitude d'amour. Parce que c'est sûr, sinon, c'est garde à vous. Voilà, il ne faut pas que ce soit vécu ainsi. Alors, j'anticipe peut-être un peu mon propos. Mais voilà. Donc, alors la notion de consécration, elle apparaît assez tardivement dans les propos, dans les textes de Sainte Marguerite Marie, parce que c'est bien sûr sur son expérience que je vais m'appuyer. Donc ça n'arrive que vers 1684, même si le mot n'est pas explicitement exprimé, en tout cas la réalité est bien là. Elle raconte une fois, mon souverain sacrificateur me demanda de faire en sa faveur un testament par écrit ou donation entière et sans réserve, comme je le lui avais déjà fait de bouche. Chez notre saint fondateur, donc qui est encore plus, donc on est en 1610, il parle avec notre sainte mère de dédicace. Voilà, comme on dédicacerait un livre ou la dédicace d'un lieu de culte, d'une chapelle, d'une église. Il lui appartient. Hein. Et il peut, du coup, l'église, elle va être utilisée ce pour quoi elle est faite. Hein. Donc, si on dédicace notre être, donc toute notre santé, tous nos biens matériels, notre vie spirituelle, eh bien, tout doit servir à Jésus. Donc, réfléchissez de petites minutes à des fois des situations où Jésus, pas ça, quoi. Alors, attention, hein, je juge personne, je donne des exemples, je suis comme vous, hein, je veux dire, c'est pas parce que j'ai un voile sur la tête hein, que tout m'est facile. Hein. Au contraire, je dirais que la consécration, on la vit pour nous et pour le monde. Hein. On est engagé là, enfin, on est en votre nom, si vous voulez. Hein. Moi, je dis souvent à ceux qui se présentent et qui frappent à la porte pour se donner à Jésus, je dis, si vous rentrez au monastère, vous ne rentrez pas pour vous, vous rentrez pour Jésus. Parce que si on rentre pour nous, on a fait le tour, et au bout de 10 ans, c'est pas un job, hein, donc c'est une vie. Et du coup, quand on a fait le tour, on s'en va au bout de 10 ans. C'est ce qu'on voit malheureusement dans certains vies de prêtres hein, qui ont fait le tour de leur paroisse et du ministère et qui s'en vont parce qu'ils ne sont pas soulevés. Et donc, c'est bien à Dieu qu'on se donne. Voilà. Et notez, et ça, elle dit, comme je le lui avais déjà fait de bouche. Le Seigneur lui demandera d'écrire cette dédicace, cette consécration, mais elle l'avait déjà fait de bouche. J'attire juste une petite attention quand vous formulez des choses, vous dites à Jésus des choses dans un élan du cœur, hein, Jésus, voilà, je me donne à toi, prends tout, ou voilà, prends mes enfants, choisis-toi dans mes enfants un prêtre, ou voilà. Eh bien, souvent on dit, ben, mais et quand ça arrive, ben, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Tout ce qu'on dit à Jésus, il l'entend. Hein, il n'est pas sourd. Voilà. Et des fois, on ne mesure pas. Moi, j'ai déjà été confrontée à des situations où il fallait faire attention à ce que vous lui disiez. Hein. Et souvent, dans un élan du cœur, c'est-à-dire que, voilà, des moments où on est dans la consolation, voilà, on promet des choses, et puis quand ça arrive, aïe, on se retire, quoi, hein, voilà. Donc, on va dire, je le dirais tout à l'heure, celui à qui vous vous adressez, même si vous le touchez, vous le sentez pas dans votre sensibilité, il est vivant, et il est Dieu, voilà. Donc, je dirais, d'autant plus aujourd'hui, il prend pas les choses à demi-mesure, parce que comme il trouve les trois quarts des cœurs fermés à double tour, quand il en trouve un ouvert, bah c'est sûr, hein, comme il est fou amoureux des âmes, et qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a quand même souffert sa passion pour le salut de tout le genre humain, et bien c'est sûr que voilà, quand il trouve un petit peu de générosité, et même beaucoup de générosité, bah voilà, c'est comme vous. Vous demandez un service à quelqu'un, vous voyez que c'est la personne, elle est ouverte, plus qu'ouverte, c'est pas une porte qu'elle veut vous repeindre, c'est toute la maison, bah là vous en profitez. Et bah c'est pareil pour le Seigneur. Hein. C'est un petit exemple, mais c'est pour aider. Alors, c'est l'amour, voilà, qui suscite la donation. C'est pas, ça doit pas être autre chose. Ce n'est pas une assurance tout risque, ou ce n'est pas la consécration. Un moyen d'obtenir mon salut. Le salut, il est obtenu. Déjà, il a souffert sa passion. Tous les jours, voilà, vous bénéficiez, hein, de la rédemption. Par contre, c'est pourquoi je vais me consacrer à Jésus. C'est par amour. Donc, quand il arrive quelque chose, attends, j'avais promis à Jésus que j'étais à sa merci, parce que c'est aussi une autre façon de penser la consécration. Mais pourquoi je me suis donnée à lui? Par amour. Donc, ce qu'il me demande là aujourd'hui, c'est donc par amour. Là, ça aide à rééquilibrer quand l'exigence nous paraît trop difficile. La donation de soi à l'être aimé, le mariage, qu'il soit vécu par des croyants ou non, est une forme de consécration de soi à l'autre. Il en est de même pour l'âme chrétienne. Découvrant qu'elle est aimée infiniment de son Dieu, elle désire en retour rendre amour pour amour. Voilà la motivation de notre consécration à Jésus et à Marie. Pour ce Dieu qui se donne tout à elle, l'âme n'a qu'un désir, se donner tout entière à l'aimé. Voilà. L'amour de Dieu appelle de tous ses voeux l'échange de consentement, le don mutuel de l'un à l'autre. Voilà, de l'un à l'autre. Donc c'est nous qui nous donnons à Jésus et lui se donne à nous. C'est ce qu'on vit dans l'Eucharistie, à la communion eucharistique. Voilà. Donc, il a donc le droit de demander des petites choses. Enfin, les petites choses qui ne sont qu'une seule chose, c'est le salut des hommes, de nos frères et sœurs en humanité. C'est l'unique chose qu'il demande. Ce qui fait que ça peut se résumer à il demande à recevoir de l'amour. Mais il est nécessaire de se livrer à Dieu, car l'homme, créature limitée, ne peut être divinisé sans se livrer à Dieu. L'homme, créature blessée, ne peut être sauvé. La consécration est donc nécessaire parce que seul Dieu donne Dieu. Hein, cette consécration nous permet de nous donner à Jésus, de nous livrer à Jésus et à sa mère. Et du coup, Jésus va pouvoir, comme on a dit, se retourner, se donner à nous. L'homme ne pourra jamais s'approprier la vie de Dieu par force ou par vertu. Ajoutons que Dieu ne saurait pénétrer par effraction dans nos âmes. Ouais, il faut un consentement, il faut que ce soit fait dans un acte d'amour, dans une liberté. Le Sacré-Cœur n'est pas une image pieuse. Ça, moi, j'insiste beaucoup. Pourtant, chez moi, à la maison, chez mes parents, trônait au-dessus de la cheminée une belle statue du Sacré-Cœur. Donc, voilà, il a toujours été présent dans notre enfance. Et Mais voilà, cette statue, elle renvoie à quelqu'un qui est vivant et par qui tout existe. Et quand on s'adresse justement à une statue, hein, quand on parle à Jésus, la statue nous renvoie à cet être vivant, qui est notre Dieu. En nous donnant au Christ, nous lui permettons de nous sauver, de transfigurer nos misères en sa grandeur, nos pauvretés en sa richesse, nos faiblesses en sa puissance. Alors, souvent, il y a une crainte dans la consécration, c'est de notre côté, bien sûr, il y a toujours un petit peu, en filigrane, de se dire, oui, mais si je fais une consécration, il va m'arriver quelque chose. Voilà. Jésus va me demander quelque chose, je vais soit tomber malade, je vais déclarer un cancer, je vais perdre mon travail, enfin, je vais avoir des épreuves. Voilà. Je ne sais pas si... souvent, voilà, on a quand même ça dans le fond. Alors, attention, je vous dis, il nous faut faire très attention au côté magique de la formule, hein, parce que on vit dans un monde où l'ésotérisme est très présent, comme Dieu est absent, on a mis quelqu'un d'autre à la place. Hein. Et notre relation avec Jésus ne doit pas être, même si ça nous traverse l'esprit, il faut s'en dégager. Hein. C'est-à-dire que si je me consacre à Jésus, c'est-à-dire que si je remets ma vie matérielle et spirituelle à son cœur, à celui de sa mère, et qu'il me demande quelque chose, par exemple, voilà, une épreuve dans ma famille, quand j'ai une personne, un souci de travail, de relation avec un collègue. Si dans notre tête, on fait la connexion « Ah, c'est lié à ma consécration », il faut couper court. Hein. Il y en a un, c'est-à-dire l'autre, le malin, le diable, le démon, le diviseur, celui qui veut vous retenir sur le chemin de la sainteté, parce qu'on vient de dire que la consécration permet de vous diviniser, ça veut dire de devenir Jésus. Il faut couper court, c'est-à-dire qu'il faut dire non, je refuse de faire le lien avec ma consécration. Voilà. Je pèse mes mots, hein. C'est vous venez de dire à Jésus dans cette forme, avec la formule que vous vous en remettez à lui pour tout, ce qui vous allez vivre, c'est lui qui le conduit. Et il ne faut pas faire de tri. Et même s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, alors voilà, j'en arrive là, quelque chose qui va nous heurter, quelque chose qui va nous demander un détachement, qui va nous demander, voilà, on va sentir voilà quelque chose qui nous peine, ou des fois on va rien comprendre. Voilà, je m'entendais bien avec mes enfants, je sais pas ce qui arrive. Ben voilà, maintenant ils veulent plus entendre parler de la grand-mère et du grand-père parce qu'il faut surtout pas qu'on leur parle de Jésus. On entend ça. Que, donc du coup, on met un bémol sur notre foi parce qu'on veut garder ses petits-enfants, on veut continuer de les garder. Enfin voilà, des situations que vous connaissez hein, et qui nous sont parfois confiées. Et alors, moi je ne donne pas de marche à suivre, mais ce que je voudrais expliquer, c'est que on vient de dire à Jésus, tu disposes de moi, je suis à ta merci. Et donc, comme je me mets à ta merci, ben voilà, tu vas donc me remplir de ta présence et cette présence va... C'est la lumière par excellence, c'est la divinité, la vie divine qui rentre en vous. Donc, ça va obligatoirement susciter du ménage chez nous. Hein. Sa présence va mettre des choses en lumière qu'avant on n'avait pas vues. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est gênant. Je vois bien que j'avais tendance à trop parler de moi quand je suis en famille, par exemple. Et depuis que j'ai fait ma consécration, ben je vois bien que c'est ça qui montre. Et du coup, ben je combats soit contre le bon Jésus ou contre moi-même. Pourquoi j'ai cette souffrance qui revient ? Ben c'est pas un mal, c'est au contraire le fruit de la consécration. Jésus entrant, lui joue le jeu si vous voulez. Vous avez dit que vous lui apparteniez, ben lui il veut mettre, il arrive. Et voilà, avec sa vie divine, il met en lumière notre intérieur et il y a des choses qui vont nous apparaître aberrantes. Hein. Alors, la démarche, je l'ai déjà évoquée, elle est super importante pour notre vie intérieure, pour la consolation du cœur de Jésus et aussi pour notre monde. Moi, je le répète, hein, alors que se vit ce week-end Hellfest, eh bien, alors là aussi, je suis de celles qui dit que je prie pour ce petit groupe de chrétiens métalleux qui sont au milieu de ce Hellfest avec, en essayant de faire de l'évangélisation. Mais c'est un partage, là aussi, hein, c'est un partage, on va dire, entre amis, hein, voilà, on est dans la même famille, parce que vous êtes gardonneur. Mais en prenant dans ma prière, ce que mes sœurs réagissaient, ouais, vous avez vu ce petit groupe de chrétiens métalleux au cœur du Hellfest, c'est super beau, etc. Oui, 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 c'est beau, mais, pour moi, il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'ai pris ça dans ma prière. Et là, ce midi, il y a une sœur, ah ça y est, ma sœur, j'ai trouvé l'article, et regardez, alors je le prends et je dis, bah voyez, moi ça me pose un problème, un chrétien métalleux, quand on sait que la musique, elle est sataniste, c'est tellement subtil, j'ai donc de la chance d'être capable de discerner dans la musique ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors moi, je m'incline hein, s'ils en sont capables. Et j'ai une sœur qui me dit qu'elle avait un de ses amis qui est lui prêtre et qui a pratiqué beaucoup la musique du métal et tout en étant en ayant la foi. Et il y a un moment, il s'est rendu compte que ça n'était plus ajusté avec sa foi. Et il l'a reconnu bien humblement, bah, que c'est pas possible quoi de faire les deux quoi. Alors, je reviens à mon histoire de se laisser diviniser, se laisser éclairer de l'intérieur par la consécration, par la vie divine. C'est pour ça que je prie pour ces jeunes. Ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Voilà. Ça se fait par étapes. Nous-mêmes, on a des fois toléré des attitudes qu'on avait vis-à-vis, par exemple, du Saint-Sacrement, on rentrait dans tout simplement, pour pas être, comment dirais-je, ridiculisé ou même critiqué, quand je suis en paroisse, je m'agenouille pas au moment de la consécration parce que je suis le seul ou la seule à m'agenouiller pendant la consécration et tout le monde me regarde de travers. Et j'ai pu le faire au début, et puis plus j'avance dans ma foi, plus j'avance dans l'amour du cœur de Jésus, plus je sens que, ben non, devant mon Créateur et devant le Tout-Puissant, moi qui suis rien, mais comment je peux faire pour rester debout devant un tel mystère ? Voilà. Là aussi, hein, je vous dis, je ne juge personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce sont des petits exemples où on voit bien que notre relation à Jésus, quand elle est de plus en plus ajustée, en somme, il nous provoque à nous reconnaître à rien, néant. Tant qu'on se trouve, bah heureusement que je suis là, hein, quand même, je fais quand même avancer la paroisse. Moi je dis ça, mes sœurs, hein, quand elles arrivent, au final, hein, bah heureusement, quand on est jeune, vous savez, bah heureusement que je suis là, parce que enfin, je fais le ménage, je fais tourner, je peux faire la cuisine, tout ça, vraiment je serai sur sa service, etc. Bah, on est de bonne foi, comme on dirait, hein, enfin, on est content, voilà. C'est la même chose dans les paroisses, hein. Heureusement que je suis là pour faire tel service, etc. Je suis donc indispensable. Et voilà. Donc, et cette justesse par rapport à cette présence qui nous habite, hein, eh bien, cette justesse, elle nous renvoie à notre néant, à ce que nous sommes réellement. Alors, on se le dit de bouche, on se le dit, hein, mais est-ce qu'on croit réellement ? On se dit toujours, oui, je suis néant, je suis rien, je vois rien, je suis misère. Quand on vous marche sur le pied, aïe, c'est mon service. Enfin, restez là où vous devez être. Voilà, vous êtes en train de prendre mon service dans la paroisse. Moi, j'existe à travers ça. Voilà, hein. Voilà, je suis une petite. Donc, la démarche pour accueillir la réalité de la consécration et ses conséquences, c'est ma divinisation, c'est le fait que Jésus s'invite et fait du ménage. Voilà. Et derrière, il n'y a qu'une histoire d'amour. C'est pas un châtiment, j'aurais pas dû me mettre à sa disposition. Si, voilà. Pourquoi ? il est amoureux de vous et de votre sanctification. En somme, ben, il vous attend là-haut, quoi. Voilà. Alors, consécration ne veut pas dire « demain je meurs », hein. Consécration veut dire « je m'engage pour ma propre sanctification et celui du monde ». Voilà. Une personne qui change, change la face de la terre. Alors, l'attitude intérieure quand il met la lumière sur quelque chose qui fait mal ou qui nous demande quelque chose qui nous fait mal et qu'on n'arrive des fois pas du tout à comprendre, ne nous prenons pas entre guillemets la tête, mais déposons notre tête dans son cœur. Voilà. Notre compréhension, elle vient de lui. Il est capable, il nous a fait, on est à lui, il est capable de bloquer la compréhension de l'épreuve rien que pour nous faire mériter. Voilà, c'est pas rien que pour aussi nous faire perdre la maîtrise de notre vie spirituelle. Consécration, on verra, il conduit les affaires. La consécration, elle conduit à l'abandon. Donc, si je maîtrise ma vie spirituelle, je comprends l'épreuve qui m'arrive. Là, je surfe sur la vague, je possède l'événement, je comprends ce que le Seigneur veut, je dis oui. Ouais, c'est beau, quoi, mais c'est pas de l'abandon. L'abandon, c'est quoi? C'est se laisser vivre, délaisser dans son abandon. C'est plus notre abandon, c'est son abandon, celui qu'il a eu à Gethsémani. Donc, repensez à l'Évangile, revoyez dans quel état il était. Hein. Donc voilà, donc il nous faut perdre pied, quoi. Donc, bah, le Seigneur, il sait faire. Hein. Donc, nous faire perdre pied, bah, je vois plus, je comprends plus, mais voilà, je l'aime et ça doit me suffire. Et j'avance, je continue de pédaler et la dynamo continue d'éclairer le chemin et puis j'avance, je vois clair. Je comprends pas, est-ce que j'ai besoin de comprendre pour lui dire que je l'aime? Voilà. Et ça c'est, aujourd'hui on est dans un monde où il faut tout comprendre pour faire confiance. Il faut être sûr. Là aussi, je peux comprendre qu'il faut être sûr, parce que vu qu'on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, voilà. Mais il faut oser, justement, faire confiance, même si... J'avais une petite histoire, attendez, je regarde où j'en suis, parce que je parle avec l'abondance du cœur. C'était une histoire du cardinal Sarah dans un de ses livres. Donc, il est allé évêcher, et c'est une pauvre dame qui lui demande de l'argent. Il est donc pas très riche. Il lui demande de l'argent pour payer, pour avoir un billet d'avion. Et elle lui demande de l'argent pour payer, pour donner à manger à ses enfants. Donc lui touché, alors qu'il n'avait pas du tout d'argent, hein, l'évêché était pauvre. Eh bien, il lui donne donc de l'argent. Et puis lui, il est appelé à prendre l'avion pour se rendre dans un pays étranger. Donc il part à l'aéroport. Et qu'est-ce qu'il voit à l'aéroport? Il retrouve cette femme qui avait acheté avec cet argent un billet. Et du coup, il se sent, on va dire, trahi, quoi. Et dans son livre, on l'interview, puis on lui dit, bah, vous vous êtes fait avoir. Il dit, bah non, j'ai donné l'argent à cette femme, mais je servais à travers cette femme Jésus. Donc après elle aura des comptes à rendre. Mais pas moi. Vous voyez, c'est à qui on s'adresse. Hein. Si on reste sur le point, on va dire, terrestre, humain, et c'est ça qui nous fait, comment dirais-je, tomber aujourd'hui. Parce que le surnaturel n'existe plus dans nos vies, comme la vie intérieure a beaucoup, qui parle, hein, qui vous parle de la vie intérieure, hein, de nourrir votre vie intérieure, de votre relation avec Jésus. Qui dit que la prière est obligatoire si on veut avoir une vraie relation avec Jésus? Donc le surnaturel, voilà quoi. Non, ce qu'on dit, c'est, est-ce que vous êtes heureux? Voilà. Non, notre bonheur, c'est celui de Jésus. Donc ça va obligatoirement passer par des phases de mise en lumière de notre vie intérieure, enfin, voilà, de nos travers, de nos mauvaises habitudes, des obstacles qu'on met pour que Jésus, justement, prenne plus de place en nous. Voilà. Alors, j'avance. Alors, les contrefaçons de la consécration. Donner, ce n'est pas se donner. Se donner n'est pas se prêter. Et consécration n'est pas prière de consécration. J'ai fait ma prière, je suis consacrée, je la fais tous les jours, ça doit marcher. Non, non. Alors, ne pas confondre la donation totale avec la générosité. On peut être donné à une tâche missionnaire, au service de Dieu, un service dans l'église, dans ma paroisse, et pourtant ne pas être donné réellement à Dieu. Encore vivre, voilà ce qui résonne derrière pour comprendre, vivre pour Dieu et vivre à partir de Dieu. La consécration n'est pas un plus dans l'ordre du dévouement pour Dieu et pour les autres, c'est un autrement. Et comme, mine de rien, on vit notre relation avec Dieu de la manière dont on vit dans le monde, on est toujours à qu'est-ce que je peux à ramasser. On se livre à Dieu pour qu'il soit notre capacité, qu'il devienne la source de notre action, de notre service. Voilà. Et ça éviterait bien des problèmes dans les paroisses. Hein. Si on était dans cette démarche de mon service, je le vis à partir de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui qui est à la source de mon service. Donc c'est lui que je regarde quand je vais faire la quête, par exemple, ou quand je fais le ménage à la paroisse, ou quand je tiens l'accueil, ou quand je... Voilà, c'est lui que je regarde. Donc c'est pas un service qui m'est dû. Donc, derrière, je n'attends aucune reconnaissance, si ce n'est sa gloire. Quand j'entends toutes les cabales que les prêtres vivent de toutes ces équipes, toute cette souffrance qu'on fait subir à nos prêtres, qui déjà ont largement ce qu'il faut, parce que voilà, moi je suis là et je suis indétrônable, quoi. Il faut qu'on se rappelle cet esprit de service, quoi. Alors tout le monde parle aujourd'hui dans l'église de service, hein, tout le monde. Mais sommes-nous réellement au service? Pour qui je fais et pourquoi je fais le service? Mais ça peut être une mère de famille hein, ou un père de famille. Hein. Voilà. Qui projette pas sa propre expérience ou son ambition, une certaine vengeance par rapport au monde, par rapport à son propre vécu sur ses enfants? Qu'est-ce que j'attends dans l'éducation que je donne à mes enfants? La gloire de Dieu ou qu'ils réussissent? Qu'ils ont un bon travail, qu'ils se marient, voilà, qu'ils sont respectants, dont je pourrais être fière, tout simplement. Alors du coup, c'est sûr que quand le Seigneur choisit dans ses enfants, dans les enfants, une religieuse ou un prêtre, même quand les parents sont catholiques pratiquants, il y a des fois ça... Ouh, oh ben pas chez nous, quoi. Enfin, voilà, hein. Bah pourtant, tous les soirs, on prie pour les vocations. Moi, j'ai déjà entendu ça. La famille se réunit tous les soirs avec les enfants pour prier pour les vocations. Le Seigneur appelle dans les enfants un prêtre, une religieuse. Eh bien, ça n'a pas été... Enfin, le cœur n'était pas dilaté, quoi. Voilà. C'est toujours pareil. Je ne juge pas. C'est toujours des moyens pour nous réajuster dans nos attitudes. Pourquoi? Parce que on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. et aujourd'hui, on me dit, moi j'en fais j'ai de la grâce de faire l'expérience de la clôture, donc je suis en retrait pour regarder le monde et toutes ses manigances, tous ses pièges. Mais quand on est dedans, malheureusement, arrive un moment, on se met à penser comme le monde. Voilà. Et on met un bémol à la prière. Voilà. Puis la consécration... je fais un tri dans ce que le Seigneur me demande. Il n'a pas le droit d'aller jusque-là. Cette vie qu'on accueille, quand on est dans cette démarche de « à partir de Jésus », il est la source de tout. Donc, je suis placée, comme je disais tout à l'heure, dans le néant, donc rien vient de moi. Si je tout ce que je fais, même si par exemple j'ai une grande capacité d'écoute, si je me place dans le service à partir de Dieu, ma capacité à écouter vient pas de moi. Donc vous voyez, tout de suite on est mis à notre juste place. Et cette dimension, elle nous place aussi dans le mystère de la divine providence. Si je vis tout à partir de Jésus, si je me reçois de lui, tout ce qui m'arrive vient de lui. Vous voyez l'enjeu de s'ajuster dans sa consécration? C'est pas un tiroir que je tire de temps en temps pour essayer de comprendre ma vie. Ah ben là, peut-être que le bon Dieu conduit ça, oui, ça vient peut-être de lui, ça. Non, le fait de tout le temps voir tout ce que je vis à partir de lui et de vouloir le vivre à partir de lui, fait qu'en fait, compte, tous les événements qui vont arriver, ben, ils viennent de lui. Et pas d'un certain hasard, peut-être que là, le bon Dieu m'aimait à ce moment-là, ou là, ben, tu sais, il a dû m'oublier parce qu'il était occupé avec le voisin. Non, c'est pas ça. Alors, se prêter. Pas de marche arrière possible. Ah ouais, j'ai oublié tout à l'heure, vous voyez, j'y ai pensé, en vous faisant la présentation de la garde d'honneur, j'allais dire que j'ai eu le cas. C'est pour la vie. Voilà, on est garde d'honneur, mais à vie. On est baptisé, mais à vie, quoi. On est enfant de Dieu, mais on n'a pas... on entend aujourd'hui, je me débaptise. J'irai quelque part regarder un lieu de culte qui est dédicacé à Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le détruire pour qu'il perde sa consécration. Hein, une bénédiction sur un objet, on veut enlever la bénédiction parce qu'on veut le donner et on veut l'utiliser pour un usage profane, il faut le brûler, il faut le détruire. Sinon, c'est une profanation. Voilà, c'est la même chose pour nous. Si on fait marche arrière, c'est-à-dire si on reprend ses billes, ben, je suis désolée, on profane. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que les lieux de culte qu'on n'arrive pas à restaurer, qui sont trop nombreux, parce que bah, il ne faut pas se mentir, on est moins de chrétiens, moins de pratiquants, eh bien, sont soit rachetés, puis c'est qu'est-ce que c'est chouette d'aller manger une pizza dans une chapelle, parce que autour vous avez la statue de Saint-Augustin, mais ça doit nous crever le cœur, quoi. Non, c'est normal. Parce que pourquoi c'est normal? Parce qu'on n'a pas vécu, alors je me frappe la poitrine, hein, on n'a pas vécu notre consécration. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des générations, enfin voilà, on a une génération qui arrive qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc on entend, je sais même pas, ce lieu où je mange une pizza, cette statue elle me paraît sympathique, mais je ne sais même pas à qui et à quoi elle renvoie. Alors, moi, je suis pas là hein, pour, au contraire, plutôt vous donner les moyens de haut les cœurs sur son corda. Mais faut, voilà, là, c'est pas ce que je veux essayer en tout cas de vous faire sentir, c'est l'urgence de vivre notre consécration. C'est pas, peut-être ben oui aujourd'hui, peut-être maintenant demain. J'ai pas la forme aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ben non, tiens, je me lève, j'ai mal à la tête. Ah, consécration. J'ai renouvelé ma consécration hier, c'était le cœur de Jésus. Ben, il me donne un mal de tête. Rien au hasard. Jésus, t'as besoin du mal de tête? Ben oui, il en a besoin. Faut le croire. Peut-être que je vais pas prendre un Dafalgan, parce que c'est vrai que c'est supportable. J'en vois pas à l'autre bout de la pièce mon mari, j'arrive à le supporter. Ben, rentrons dans cette petite démarche de sacrifice, d'oblation. Voilà, d'offrande de nous-mêmes, de mort à nous-mêmes. Hein, on a oublié cette dimension. C'est pour ça qu'on a du mal à accueillir ce que Jésus nous demande dans nos consécrations qui sera difficile à vivre. Alors voilà. Et la consécration n'est pas une prière. Je la récite tous les matins, alors ça doit marcher. Voilà. Sécurité. La consécration n'est pas derrière nous, mais devant nous. J'avais beaucoup aimé ça dans le livre du Père Guibert sur le cœur de Jésus, Rendre amour pour amour. Dans sa préface, ça remonte à quelques années, il avait dit que le culte du cœur de Jésus n'était pas derrière nous, mais devant nous, et qu'on n'avait pas encore vu ce que c'était que le culte du cœur de Jésus. Et aujourd'hui, je vous tiens les mêmes propos. Pour moi, c'est quand je vois le monde et comment il tourne sur lui-même, eh bien, c'est toujours vrai ces paroles. Ces paroles sont prophétiques. La consécration au cœur de Jésus, on n'a encore rien vu de cette consécration. Parce que Dieu nous aime et il ne peut pas nous laisser au chaos, c'est pas possible. Il ne peut pas abandonner son Église, c'est impossible. Donc, cette consécration, elle est vie et même nouveau mode de vie. Parce qu'elle est à partir, est un mode de vie à partir d'un autre et qui n'est pas nous-mêmes. Et malheureusement, on se met à l'origine de tout. Et on essaie de comprendre ça. Tout ce qu'on vit à partir de nous. Alors n'oublions pas l'objectif à atteindre. Il faut que ce divin cœur de Jésus soit tellement, et ça c'est pas de moi, c'est de ma sainte patronne, sainte Marguerite Marie, soit tellement substitué à la place d'une autre que lui seul vive et agisse en nous et pour nous. La consécration ne nous met pas Jésus à dos. Que sa volonté tienne tellement la nôtre anéantie qu'elle puisse agir absolument sans résistance de notre part. Et enfin, que ses affections, ses pensées, ses désirs soient en la place des nôtres, mais surtout son amour qui s'aimera en nous et pour nous. Ça vous rappelle pas Saint Paul ? Qu'il vive. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ça, c'est... Enfin là, je dirais, là, c'est le bonheur sur la terre. Et c'est possible sur la terre. Il ne faut pas attendre le ciel. Parce que ça, c'est que si on l'aura, en profusion, voilà, on sera en Dieu, donc il n'y aura plus aucun manque. Hein. Mais le laisser vivre en nous, c'est ce qu'on vit, en tout cas, à chaque Eucharistie, quand on le mange, hein, il vit en nous. Maintenant, est-ce qu'on lui donne les moyens de régner en nous et de nous aimer en, de le laisser et nous aimer en nous. Voilà. Moi, je vais jusqu'à dire, oui, c'est ça, j'ai trouvé chez Sainte Marguerite Marie, j'étais contente parce que je me suis dit, c'est bien inspiré. C'était quand je communie, Jésus se communie en moi. Il vit en vous. Vous avez compris ? Voilà, il m'habite. Quand je communie, il se communie en moi. Donc, on le fait grandir en nous. Voilà. Du coup, c'est pas « je vais chercher quelqu'un », non. « Je fais vivre quelqu'un en moi voilà. ». D'où le désir d'aller le chercher à la Sainte Messe. Voilà. D'où le désir, et Sainte Marguerite Marie, hein, il lui dit hein, que s'il n'avait eu que Sainte Marguerite Marie, il aurait institué son Eucharistie, rien pour se donner à elle, parce qu'elle, à l'époque, on ne pouvait pas communier tous les jours, et du coup, elle pleurnichait parce qu'elle ne pouvait pas communier ce jour-là, et le Seigneur lui dit, rien que pour toi, j'aurais institué mon Eucharistie. Voilà. Donc ça, c'est à chacun qui nous le dit. Donc quand on va à la messe, ce n'est pas nous qu'allons chercher, c'est lui qui se désire en nous. Vous n'avez pas la même chose hein, pour dire le matin, oh, faut se lever, je me suis couchée tard. Voilà. Alors notre liberté, soit elle sera un levier ou soit un obstacle à notre donation, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Donc cette liberté, elle doit être au service de notre consécration, c'est-à-dire au service de nos oui, les petits et les grands. La consécration ne va pas regarder les grands événements de notre vie, où là il faut faire un choix, est-ce que je me fais religieuse, est-ce que je me marie, est-ce que si, est-ce que je rentre à la maison de retraite, est-ce que, voilà, non, c'est dans, cette consécration elle est pour tous les instants, elle me dispose, voilà, dans l'attitude, c'est pour ça que j'aime bien le cœur de Jésus, le cœur de Marie, dans l'attitude de Marie à l'Annonciation. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le oui de Marie. Voilà. Et c'est ça qui permet à Jésus de vivre en nous. Mais alors, toujours, le oui, je ne dis pas un oui parce que je comprends qui veut que je dise oui. Il y a des jours, on dit oui, on ne sait même pas qu'on dit oui. Hein. Il y a des fois, il nous met dans un tel brouillard dans la tête qu'on ne sait même plus si on dit oui. Qu'importe, l'essentiel c'est d'avoir dit oui. Ne mesurez pas. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Pourquoi ne pas mesurer? Parce que je maîtrise ma vie spirituelle. Tout ce que le Seigneur vous fera vivre, ce sera pour vous couper les mains. En fait, pour vous faire tomber les mains. Hein, pour que vous perdiez pied. Voilà. Et là, il faut accepter. Et c'est ça la vie spirituelle. C'est se laisser tomber dans le cœur de Jésus. Abîme d'humilité. À l'abîme, il faut bien tomber dans un abîme. Donc, il faut plonger, il faut descendre. Nous, on aime, bah, voir où on va, posséder, comprendre pour pouvoir avancer. Non, tout ça, c'est, ça nous éloigne de la démarche. Et c'est ça qui fait qu'on souffre dans la consécration, dans la démarche de consécration. Si vous désirez vivre toutes pour lui, disait Sainte Marguerite Marie, et arriver à la perfection qu'il désire de vous, chacun, hein, pour chacune et chacun d'entre nous, Jésus a fixé dans son amour cette perfection. C'est pour ça que ça diffère des uns et des autres, et c'est ça qui fait la beauté du corps de l'Église. Il faut faire à son sacré cœur un entier sacrifice de vous-même et de tout ce qui dépend de vous sans réserve pour ne plus rien vouloir que par la volonté de cet aimable cœur, ne rien affectionner que par ses affections, n'agissant que par ses lumières, n'entreprenant jamais rien sans lui demander premièrement son conseil et son secours. On va dire que je suis plus, moi, de formation traditionnelle, et pourtant, quand j'entends ça, quand je vis ma consécration, je me sens charismatique. Quand on dit vivre en l'esprit, vivre, se laisser conduire par l'esprit, c'est vivre la consécration. Vous voyez, la consécration, pour certains, ça fait démoder. Le mot, ça fait rabat-joie, quoi. Eh bien, non. Alors, quand vous vivez la consécration, ça veut dire que vous laissez Jésus conduire votre vie, ben c'est ça, vivre en esprit. C'est se laisser conduire par l'esprit. Vous voyez ? Donc en somme, on est très moderne en vivant la consécration. On est charismatique. Le Sacré-Cœur veut régner en nous. Livrons-lui notre liberté. Laissons-nous conduire par lui pour vivre à partir de lui. Et Sainte Marguerite Marie écrit à la mère de Soudeille : vous ne vous regardez plus que comme appartenante et dépendante de l'adorable cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, n'ayant recours en toutes vos nécessités qu'à lui. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi faire devant une situation. Elle le dit, Sainte Marguerite Marie, à qui il faut demander. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en général ? On va demander un conseil. Non, je dis pas qu'il ne faut pas lui demander des conseils, hein, attention. Mais le premier conseil, je pense pas exagérer, celui à qui on demandera ceci, à Jésus, mais ce sera le dernier. Voilà. On se restera très humain et on ira appeler une amie, hein, voilà. On demandera un conseil humain. Avant, allons d'abord frapper au tabernacle, Jésus, qu'est-ce que... Oui, mais Sainte, non, il est vivant et il nous entend. Il ne va pas me répondre, ah, est-ce que vous avez essayé ? Jouez le jeu, il vous arrive quelque chose, vous ne savez pas quoi faire. Allez le voir. Donc, vous vous rendez compte pour lui, alors que c'est quand même celui qu'aujourd'hui, à qui normalement tout revient. Vous vous rendez compte, il a tout fait. Et c'est grâce à lui que tout est maintenu dans cet amour. Et aujourd'hui, c'est écologie, on parle comme ça. Alors, qui est le créateur ? Écologie. On lui prend tous ses droits de créateur. Voilà. La vie, du début jusqu'à la fin, sous le biais de charité, enfin, bref. Et alors que je suis désolée, un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant, le créateur, là, il existe. Mais avant, c'est des méthodes. Je croyais qu'il est... Vous voyez ce que je veux dire derrière ? Quand on a une situation, on ne sait pas. Et des fois, pour des choses toutes simples, toutes bêtes, on va dire, eh bien, pourquoi on ne prépare pas la démarche d'aller le voir au tabernacle ? Donc, le créateur qui vous voit prendre la bicyclette ou la voiture pour aller lui parler au tabernacle dans la paroisse, et qu'il est le grand oublié à qui on ne lui reconnaît aucun de ses droits alors que tout existe par lui, vous ne croyez pas qu'il sera peu touché et qu'il ne vous dira pas quelque chose ? Alors peut-être que vous n'allez pas l'entendre. Par contre, je vous promets, parce que enfin, moi, je ne suis pas une personne exceptionnelle ou privilégiée. Si, privilégiée parce qu'il m'a choisi, mais il vous a aussi choisi comme garde d'honneur et baptisé. Eh bien, tout ce que j'ai pu lui demander... Du bouquet de fleurs pour fleurir, parce que j'ai plus de fleurs, au jardin pour fleurir le tabernacle, ou ou à la guérison d'un membre de ma famille atteint d'un cancer, il ne m'a jamais manqué au niveau, pas de la guérison, mais d'un signe, d'une confirmation, d'une lumière intérieure pour avancer dans l'épreuve. Hein. Par contre, voilà, c'est sûr, c'est si on va le voir et puis on croit que c'est juste un morceau de pain ou juste un morceau de bois suspendu dans les airs, c'est sûr que ça va rien produire, quoi. Notre attitude, elle est amoureuse quand on va lui demander un conseil, quoi. Et combien de fois, à Jésus, j'ai pas de fleurs pour quand j'étais chargée de fleurir le, parce que j'aime beaucoup les fleurs pour fleurir le tabernacle. Et du coup, voilà, bon, là, il y a une fête. Je dis, comment on va faire? Il n'y a plus rien dans le jardin, tout est grillé. Et vous croyez, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Il y a obligatoirement, Jésus va susciter un bienfaiteur. Donc il y a une personne qui vient dans la chapelle, qui lui vient remercier la Sainte Vierge parce qu'il a obtenu une grâce, et qui sonne à la porte et qui dit, est-ce que vous pourriez mettre un bouquet de fleurs? Ah! Voilà ma réponse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Par contre, c'est sûr hein, que... il faut aller le voir au tabernacle et dire « Demain, j'ai rien pour fleurir. » Donc, il faut accepter le temps qui s'écoule sans avoir rien. Voilà. Mais ce temps, il est bénéfique. Aujourd'hui, tout doit aller très vite. Et tout va très vite. Là aussi, il y a quelque chose à comprendre. Le temps est bénéfique pour nous creuser, pour faire une cavité à l'intérieur de nous, pour qu'il vienne habiter en nous. Voilà. Sinon, on met. Voilà. Je crois que je suis arrivée dans les temps. Donc du coup, même, oui, il tient bien le temps. C'est lui qui fait le temps. Par contre, il n'a pas permis que je parle de l'abîme d'humilité, mais je pense que c'était nécessaire en tout cas de nous réveiller, en tout cas moi ça m'a réveillée, dans ma dévotion et surtout dans ma consécration hein, de la vivre justement ajustée à ce que le Seigneur veut, quoi, pour sa gloire, voilà, pour le consoler, hein, pour grandir dans l'amour du cœur de Jésus et de celui de sa mère.